Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Alors, on a salade verte avec un petit toast avec de la tomme de Savoie AOP, de la carbonade de bœuf, donc qui est un plat flamand à base de bœuf et du pain d'épices et du vinaigre et de la moutarde, des galettes de légumes brocoli carottes et un gâteau de semoule au raisin maison. Voilà.
Aujourd'hui, dans Il est une vallée, nous nous intéressons à la question de l'alimentation et de la santé. S'il y a bien une activité qui nous rassemble tous et toutes, c'est bien celle de manger. Nous ne cessons de l'entendre et d'en faire l'expérience. Manger sainement est un gage de bonne santé. Mais il n'est pas toujours évident de le faire lorsque nous manquons de ressources ou bien lorsque nous n'avons pas de prise sur ce que nous consommons. C'est vers des lieux de restauration collective que nous sommes allés glaner des paroles, notamment auprès de Marc Tamian, cuisinier à la cantine de l'école de Chabestan à Die, et Régine Roule, directrice des services des hébergements de l'ESAT de Recoubeau, mais aussi auprès de Valérie Joubert et Anne Rouche, toutes deux chargées de mener à bien l'étape du pronostic d'un PAT, un programme alimentaire territorial, à l'échelle de la communauté de communes du Diois. On vous propose donc d'aller à la rencontre de celles et ceux qui réfléchissent et tentent de mettre au cœur de la restauration collective des valeurs environnementales et humanistes. En somme, d'aller à la rencontre des initiatives qui se trouvent en chemin vers une restauration collective vertueuse et résiliente.
C'est un peu dénigré la cuisine collective.
Marc Tamian, chef cuisinier à l'école de Chabestan, a dit:
je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que chaque jour, on change de menu. Et deuxièmement, j'ai une chance énorme, c'est moi qui choisis les menus que je fais. Si vous mettez des menus qui vous plaisent, où il y a du travail, et ça change tous les jours, et ben c'est agréable à faire. Vous faites suivant les saisons, selon vos envies, vous découvrez, vous allez chez des copains, vous découvrez une nouvelle recette, et ben vous recherchez comment la faire pour 250, pour 300 personnes. Donc tout ça, c'est un travail qui est intéressant. Mais la cuisine collective, il ne faut pas la dénigrer parce qu'avec les nouveaux fours qu'on a, les nouvelles sauteuses, on peut faire de la qualité et même en nombre. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas monter à 2000 couverts, 2500 couverts. Ça devient des usines à nourriture. Mais quand ça reste 300, 400, 500 couverts, ça peut être intéressant.
C'est ce que vous faites, 300 couverts par jour?
On est entre 300 et 340 couverts. Et je pense qu'avec les beaux jours, on va remonter. Après, en plus, il y a une politique des prix. Il y a quand même beaucoup de familles qui ne payent que 1 euro le repas. Donc aller manger un repas pour 1 euro, ce n'est pas facile.
Tout un chacun peut se rendre aller manger à la cantine de l'école?
Non, non. Non, c'est réservé donc aux élèves. Avant le Covid, les parents qui avait un enfant, pouvait venir une fois ou deux pour venir voir ce que c'était. Et il y a le personnel communal aussi qui pouvait manger. Donc tout employé de la mairie pouvait venir manger en payant leur repas, bien sûr. Mais ça reste limité, ce qui est normal, parce que c'est pas une vocation de faire un restaurant, traditionnel.
Ou j'allais dire un restaurant ouvrier.
Après, c'est toujours pareil. Ça, c'est la mairie qui décide de la politique qu'elle veut faire de ses cantines. Et de...
Non,
Alors, il faut bien différencier le primaire maternel. Là, ça dépend de la mairie. Après, le collège, ça dépend du département. Et le lycée, ça dépend de la région. Donc voilà, la mairie, donc c'est moi, c'est que l'école primaire et l'école maternelle. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas assujetti au marché. C'est-à-dire que moi, j'achète où je veux et les quantités que je veux. Contrairement au collège, où il y a des marchés qui sont signés par le département, et l'économe est obligé d'acheter les haricots verts de telle marque qui ont été choisis pour l'année parce que c'est les moins chers, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Tandis que moi, j'achète ce que je veux, où je veux. Ça, c'est très important. Et en plus, c'est moi qui décide des menus, c'est moi qui décide des achats. Donc, j'ai une totale liberté pour pouvoir cuisiner. Et ça, c'est très important parce que c'est... Ce n'est pas facile de contacter les différents petits paysans ou les différents... Et bien souvent, les grosses collectivités ont tendance à se regrouper et acheter tout au même endroit.
Et ce marché dont vous parlez, comment il est constitué ? Quand vous dites le marché, c'est quoi ?
En fait, c'est l'établissement qui estime qu'il va passer, je dis n'importe quoi, 400 kilos d'haricots verts par an. Et donc, le département lance un appel d'offres pour tous ses collèges. Et ils demandent 3 tonnes d'haricots verts et ils prennent celui qui fait les haricots verts le moins cher. Et après, le collège est obligé d'acheter à ce fournisseur-là ce produit-là. Voilà ce que c'est qu'un marché.
Alors bonjour, moi je m'appelle Régine, je suis directrice du pôle d'établissement ici à Recoubeau-Jansac. C'est un pôle qui est géré par la Croix-Rouge française, qui comprend un ESAT pour 74 personnes physiques en situation de handicap, donc tous adultes, dans des situations de travail avec des ateliers différents, 66 équivalents temps plein. Et en même temps, un hébergement avec un accompagnement médico-social, donc qui comprend un foyer d'hébergement pour 19 personnes, un foyer appartement pour 28 personnes et un service d'accompagnement à la vie sociale pour 30 personnes. Tous les hébergements se situent à la fois sur le village de Recoubeau et à la fois sur la ville de Die. On a à peu près moitié-moitié des personnes. Dans tout cet effectif, on a des personnes qui sont retraitées aussi, qui sont suivies et accompagnées par les équipes. Donc en ce moment, on doit en avoir 12, je crois. Et on a aussi à les aides des personnes externes qui restent et demeurent dans leur famille. Donc ils ne sont pas accompagnés par les hébergements à ce jour, mais qui peuvent l'être plus tard. Donc on est très participatif. Et on a une prestation avec les écoles, on leur fournit le repas sur place. Ils viennent manger dans notre superbe salle à manger ici, tous les midis d'école. Et on va très certainement s'occuper aussi, enfin c'est pas très certainement, on s'occupera des repas des crèches de Luc et Châtillon pour septembre 2022. En plus de nos usagers tous les jours, le midi sur les ESAT, donc ici dans ces salles à manger, et le soir sur les hébergements, donc un cuisinier monte le repas du soir sur l'hébergement du château à Recoubeau. Au niveau des cuisines, on a toujours valorisé le fait de garder une cuisine ici faite par nous-mêmes, maison donc, on peut le dire comme ça. Contrairement à d'autres collègues qui ont pris l'optique d'aller voir... Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms, mais toutes les restaurations rapides qui se font ailleurs, hein, que ça soit plein sud ou autre. Je pense qu'on a bien fait, honnêtement, quand on voit le produit qu'on a dans l'assiette. Moi, j'y mange tous les midis. Plusieurs usagers le disent eux-mêmes. À la fois, ils râlent qu'ils n'ont pas certaines choses qu'ils aimeraient avoir. Alors, je vais parler de burgers, de frites, etc. Et à la fois, ils savent que c'est important pour leur santé de manger des produits fabriqués maison et faits maison et des légumes, etc. Voilà. Ils sont tout à fait conscients de la chose. Mais comme tout en chacun, ils aimeraient manger plus de sucre et autres.
J'imagine que c'est un sacré investissement et une sacrée organisation justement d'avoir voulu faire vous-même la cuisine ici dans cet établissement.
Le choix, il est motivé par effectivement une problématique de santé générale, aussi bien pour nous, j'allais dire, on a la même problématique. En vieillissant, on a besoin de manger de mieux en mieux, aussi bien équilibré que naturel, que bio, que voilà, c'est vraiment important. Moi, la diététique, ça fait longtemps, fait partie de mes prérogatives sur notre cuisine ici, mais pas seulement celle qui est faite par la cuisine centrale, aussi l'apprentissage qui est donné au niveau des usagers. Les éducateurs qui travaillent en soirée, les week-ends, les vacances, ont aussi sous-jacent le fait de proposer des repas équilibrés aux personnes. Voilà, ça n'empêche pas que les personnes vont aller chercher autre chose certaines fois. Mais en tout cas, ils savent l'importance du bien manger. Et on sait pertinemment qu'on a de plus en plus besoin d'aller vers du local, chercher des matières premières locales et aller vers des consommations de céréales bio et de pratiques un peu plus bio que ce qu'on avait dans les collectivités auparavant.
Alors vous, du coup, vous êtes aussi l'économe de cette cantine scolaire.
Je suis aussi l'économe. Donc il y a tout le travail des menus. Donc on fait pas n'importe quoi pour établir les menus. Donc les menus doivent être établis sur 20 repas consécutifs. Il y a 4 repas par semaine. Donc sur 5 semaines, 4 fois 5, 20. Et sur ces 20 repas, il faut équilibrer certaines choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à plus de 3 produits, par exemple, cuits en friture. Que ce soit des frites, que ce soit du cordon bleu, que ce soit des choses comme ça. Il faut équilibrer 10 légumes et 10 féculents sur les 20 repas. Il faut servir un certain nombre de fruits minimum. Donc il y a des minimums et des maximums à respecter.
Qui sont établis par qui ?
Alors, c'est par le GERMC, groupement d'études de la restauration, je crois, collective, qui, suite à l'augmentation de l'obésité, a établi, maintenant ça doit faire bien une dizaine d'années, une recommandation pour établir les menus. Toute la restauration collective est assujettie aux mêmes règles. Et en plus, là, donc, depuis cette année, donc depuis le 1er janvier, il y a la loi Egalim qui s'est mise en place. Donc, il y a 50% de produits qui doivent être de qualité, dont 20% de produits bio. Donc, les produits de qualité, c'est tout ce qui a un label. Donc, le label AOP, le label AOC, le label rouge. Qu'est-ce qui est encore le label fermier ? Je crois qu'il est valable. La pêche durable pour les poissons. Et oui, bah, c'est à peu près tout. Et donc, il faut 50% de ces produits-là, dont 20% de produits bio. Et ça, c'est depuis le 1er janvier.
Comment donc s'organiser pour répondre à toutes ces prérogatives et pour s'approvisionner localement ?
C'est un gros sujet parce que donc il y a les produits bio. C'est assez difficile d'acheter directement aux producteurs. Pourquoi ? Par exemple, je travaillais avec le GAEC Madame Vache. Sauf qu'il faut établir une facturation maintenant dématérialisée par un site d'État, donc Chorus Pro. Et c'est pas facile pour un agriculteur qui n'est pas forcément très fort en informatique d'aller passer par site. Il y a souvent des bugs et voilà. Donc j'ai été obligé d'arrêter. Enfin, ils n'ont plus voulu me servir pour cette raison-là. Donc c'est un peu dommage parce qu'ils avaient des fromages de qualité. Et après, tout ce qui est maraîchage, nous sommes dans le Diwa. Vu les températures qu'on a en ce moment, des légumes, à part des carottes qui restent de l'automne et des oignons et des pommes de terre, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je travaille avec une petite surface là, de Dix qui me livre aussi la viande, qui a une dérogation pour me livrer de la viande fraîche. En plus, leur viande, il y a de l'agneau bio local, donc c'est intéressant. Leur bœuf, c'est soit du Limousin ou soit du Charolais, donc de la viande de qualité. Des poulets fermiers, enfin bon, de la viande de qualité. Et en plus, ils peuvent avoir des légumes bio. Et le gros avantage, c'est qu'ils me livrent deux fois par semaine. Et que si, par exemple, au dernier moment, j'ai deux classes de fermées pour cause Covid, eh ben, je diminue les quantités et ils acceptent. Parce que ça aussi, c'est quand vous retrouvez avec 100 bananes sur les bras qui sont mûres, ce n'est pas facile à gérer. Donc, c'est important que déjà je sois livré, parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller faire les courses. Et en plus, de pouvoir changer au dernier moment, enlever des quantités de viande ou rajouter au contraire, s'il y a plus de monde, des quantités. Tout ce qui est céréales, petite épeautre, pâtes, riz et tout ça, c'est souvent demi-complet et tout en bio, parce que Marcal, il ne travaille que des produits bio. Toutes les huiles sont prises aussi là-bas. Donc pour les vinaigrettes, c'est un mélange de plusieurs huiles bio, de première pression à froid. Tout ce qui est œufs, bon là je prends un AU, mais c'est des œufs bio coquilles. Le lait, c'est du lait frais bio entier. Du sucre roux bio. La farine, c'est de la T80 en bio. Bah, toutes les légumineuses, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, la semoule de couscous complète. J'essaye au maximum de garder des produits pas trop raffinés et en bio.
Bah alors là, c'est mon eau qui frémit. Voilà. Des énormes casseroles un peu de partout ce matin parce qu'on va cuire des pâtes à midi. On est quand même 120 donc.
Le surgelé, on est obligé d'en avoir parce qu'on est quand même, on a quand même 140 repas à faire par jour. Et qu'en hiver, par exemple, on ne peut pas manger que des carottes et de la courge, du diwa. Voilà. Mais à la fois, on est tout à fait conscient que c'est important d'y être très vigilant. C'est un choix d'établissement que de dire on est dans une démarche de bien manger avec des produits qui sont... plus respectueux de l'environnement et surtout plus noble pour notre santé.
Quel plaisir les bénéficiaires de ces repas prennent à manger ici.
Nous, on a des enquêtes de satisfaction régulières, outre ce qu'on entend à table tous les jours. Ils sont conscients effectivement qu'ici, on mange mieux qu'à certains endroits. Ils le disent eux-mêmes. Dans les enquêtes de satisfaction, on le voit décrit. À la fois, il y a toujours les éternels râleurs, et ça, on n'y peut rien. C'est classique et c'est normal.
Un peu de silence, là, s'il vous plaît. Un peu de calme, là, s'il vous plaît.
Un cuisinier, j'imagine qu'il a à cœur de donner de l'appétit aux enfants, ceux et celles qui vont manger. Comment vous élaborez du coup vos menus et même, j'allais dire, vos assiettes, comment vous élaborez vos recettes pour que ça donne de l'appétit?
Ce qui est intéressant, c'est comment servir le produit pour qu'il en revienne le moins possible. Je fais... un gratin d'oreilles d'âne. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas un âne que j'ai coupé les oreilles. C'est simplement l'épinard, le tétragone, qui a une forme d'oreille d'âne. Et c'est un plat des Hautes-Alpes, où c'est un mélange de crêpes et d'épinards avec du fromage. Et bien là, les épinards passent... Bon, je ne dis pas que c'est un succès total, mais ça passe quand même beaucoup mieux. Et ils arrivent à manger. Qu'un enfant ne mange pas un jour... Pour moi, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que j'arrive à lui faire connaître autre chose que des pâtes au beurre, autre chose qu'un cordon bleu industriel, autre chose que tout ça, quoi. Et c'est arrivé à lui faire découvrir que peut-être dans 10, 20 ans, quand il aura lui-même des enfants, il va lui dire, bah tiens, je me rappelle qu'à la cantine, je mangeais ça, je vais te le faire. Et ça, ça serait une belle récompense pour moi.
Nous l'avons compris, bien manger, c'est aussi prendre du plaisir, apprendre à apprécier la pâte du cuisinier, savoir ce que l'on a dans l'assiette. Le plaisir compte donc, mais il n'est pas que question du plaisir de manger. Il y a aussi le plaisir de faire à manger. La restauration collective, ce n'est pas juste une tâche, nourrir des bouches. C'est une façon de faire collectif, d'être ensemble et de se porter du soin, dans de bonnes conditions.
Quand on est là depuis longtemps, on voit effectivement les choses qui bougent et qui changent dans les équipes de cuisine au niveau de l'ambiance. Il y a des personnes qui aiment faire à manger et qui sont capables de chanter en faisant à manger. Rien que ça, ça prouve... Il y a un petit quelque chose. Ils y mettent du cœur, et voilà. Par rapport à nos usagers qui viennent aider, oui, bien sûr. Pour eux, comment dire ? Moi, j'ai comme l'impression que quand on donne à quelqu'un d'autre, on se fait déjà du bien parce qu'on est fier d'avoir apporté quelque chose. Donc la plupart du temps, ça coule de source. Et je pense que le personnel ici, il ne vient pas travailler dans la cuisine de l'établissement pour rien. S'il a choisi de venir dans cet établissement, c'est qu'il avait déjà un petit côté social, un petit côté d'apport personnel à donner à l'autre. Toute personne qui travaille ici dans cet établissement, on lui demande d'avoir un savoir-être, d'avoir des compétences autour de l'accompagnement. Donc ça peut être quelque chose de très... qu'on a tous en soi, hein, d'être bienveillant, d'être dans l'empathie, d'être voilà, à la fois cadrant, à la fois pouvoir exprimer des choses positives ou négatives aux personnes sans les blesser. Voilà, ça peut être des choses tout à fait qu'on fait nous-mêmes entre nous.
L'ambiance en cuisine est très importante. C'est pas possible de faire bien manger s'il y a une mauvaise ambiance. Parce que si vous tirez dans les pattes, ça fera forcément... Un jour, ça va pas le faire. Le travail de cuisine, c'est un travail d'équipe. Parce qu'un cuisinier tout seul, pour faire 300 couverts, il n'y arrivera pas. Donc c'est arriver à avoir une équipe qui ait envie, c'est pas toujours évident, qui ait envie, qui bosse parce que c'est du boulot, surtout le tôt le matin, parce que quand vous faites un bœuf bourguignon, c'est 3 heures de cuisson. Donc le personnel, il mange à 11h30, donc vous enlevez 3 heures. Donc c'est tout ça, mais moi j'ai la chance d'avoir les deux collègues qui sont avec moi, donc on est 3 en cuisine. Avoir deux collègues qui ont envie et qui bossent bien. Et c'est vrai qu'avec l'habitude, avec du bon matériel, eh ben, c'est vrai que vous arrivez à faire des choses assez formidables, quoi. Par exemple, moi, je ne veux pas cuisiner des poissons panés, je ne veux pas cuisiner des cordons bleus industriels. Donc, par exemple, on fait des cordons bleus maison. Donc, on achète des escalopes de volaille, on achète du jambon fumé, on achète du fromage à raclette. Et on coupe le fromage à raclette, on coupe le jambon, on met tout ça dans l'escalope de volaille qu'on panne et qu'on fait cuire au four au dernier moment. Bon, ça représente du travail, ça a été long à mettre en place parce qu'il faut réfléchir comment on va faire pour 300. Mais du coup, ça, c'est un résultat qui est sympa, quoi.
Une marmite d'ambiance agréable, de bonnes conditions de travail, auxquelles vous ajoutez une bonne dose de conviction.
Vous connaissez beaucoup de boulot où si vous n'avez pas des convictions, vous arrivez à faire votre travail ? Non.
Il est une vallée sur Erdiwa, RSF. Thank you.
Des projets, bien sûr, on en a et on espère que le projet des crèches va aboutir. Donc, on avait une réunion la semaine dernière avec la communauté des communes. Monsieur le maire de Recoubeau était très participant pour que l'établissement de son village donc puisse effectivement proposer les repas aux crèches de Luc et Châtillon. Ça, c'est le projet qui va se mettre en route sous peu, qui nous demande beaucoup d'investissements personnels et professionnels, bien sûr, pour que les usagers eux-mêmes participent à cette... Ça ne soit pas que un projet de la direction ou de la cuisine. Hein. Ils vont notamment, on parlait de participer à faire la cuisine, mais ils vont aussi livrer les repas eux-mêmes avec un véhicule sans permis. Voilà, donc c'est un nouveau projet. Jusqu'à présent, on n'était pas allé jusque-là dans notre établissement. Et là, on prend un nouveau cap. Faire acquérir aux personnes des nouvelles compétences. Des compétences qu'ils ont pour certains, il y en a qui ont déjà des voitures sans permis et qui circulent dans Guy, à titre privé. Là, on est dans le titre professionnel. Ils vont conduire un véhicule de l'établissement pour livrer des repas aux crèches. Donc un apport aussi à l'extérieur. C'est riche et ça fait tout à fait partie de ce qu'on appelle l'emploi accompagné, c'est-à-dire permettre aux personnes de travailler à l'extérieur. L'extérieur étant la vie professionnelle comme tout un chacun, et non pas dans un établissement qui s'appelle ESAT. L'idée, c'est d'être sur le territoire, à plusieurs endroits, selon les compétences de chacun.
Le projet dont vient de nous parler Régine est un exemple significatif de ce qui peut se créer, s'organiser dans la vallée de la Drôme. Un exemple d'échanges qui vont pouvoir, avec le temps, se renforcer et fructifier. Repérer là où il y a des manques en termes d'organisation collective, là où il y a du pain sur la planche, et sonder les habitants et habitantes du Diwa sur leurs envies et besoins en termes d'alimentation sont les finalités du diagnostic prévu comme première étape du PAT, Programme Alimentaire Territorial, initié par la communauté de communes du Diwa. Nous découvrons Anne et Valérie.
Le constat qu'on partage tous, je pense, c'est qu'on est donc dans un territoire avec une extrême richesse. La question de l'alimentation, elle est vraiment centrale. Elle est au cœur des préoccupations des consommateurs, des producteurs, des distributeurs et des élus aussi, puisque quand donc j'ai intégré la communauté des communes, j'ai pu partager cette réflexion avec l'ensemble des maires. Et on a décidé ensemble de répondre à un appel à projet national dans le cadre du programme national de l'alimentation. Un appel à projet qui a donc été retenu. Et un projet qui a permis de soutenir l'émergence de ce projet alimentaire de territoire. Et que nous commençons à peine avec la présence d'Anne Rouge qui a pris ses fonctions là, il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est vraiment, ça part d'une volonté des élus de s'emparer de cette question-là et de mettre tous les acteurs autour de cette question-là en partant effectivement d'un diagnostic. C'est une démarche vraiment globale, concertée. La dynamique, en fait, le PAT, il engage une dynamique de réflexion qui va se poursuivre, qui commence à peine et qui va se poursuivre les prochaines années après par des actions concrètes. Mais pour l'instant, on a besoin en tout cas de mettre tout le monde autour de la table.
Ce projet alimentaire territorial qui démarre, enfin moi je pense que c'est une chance, mais que tout le monde puisse se poser la question sur ce territoire de qu'est-ce qu'on veut manger demain, qu'est-ce qu'on veut tous manger demain sur ce territoire et comment on se donne les moyens de le faire. Et du coup, si on veut répondre à cette question, on va passer d'abord par cette étape qui va durer. On espère 5-6 mois de diagnostic pour savoir qu'est-ce qui se produit sur ce territoire. Qu'est-ce qui pourrait se produire sur ce territoire? Quels sont les flux? Parce que quand on parle d'alimentation, on s'intéresse à l'agriculture, mais bien sûr aux flux aussi. Quels sont les besoins et les attentes à la fois des acteurs de l'alimentation, donc bien évidemment, en début de chaîne, les agricultrices, les agriculteurs, mais aussi, bien sûr, en bout de chaîne, les consommateurs. Et au milieu, il y a plein d'acteurs. Il y a les transformateurs, il y a les restaurateurs, à la fois les restaurants privés, mais aussi la restauration collective. Il y a les porteurs de projets et il y a les habitants.
En tout cas, pour les établissements publics, on sait que cette question-là de l'alimentation, elle est vraiment importante. Le département, si c'est pour parler de la cité scolaire, par exemple, le département qui gère la cité scolaire, au niveau de la restauration, a elle-même un PAT et vient de s'engager aussi dans une réflexion. Et ce PAT, en tout cas, sur la question, par exemple, de la lutte contre le gaspillage, viendra soutenir, je pense, en tout cas, c'est le souhait, des initiatives locales, là, au sein des établissements. Et voilà, pour aussi davantage mettre les producteurs locaux au menu du jour. C'est l'idée, en tout cas. Il y a énormément de choses qui se font et la stratégie du PAT permettra en tout cas de mettre en cohérence et de faire sens sur des actions et de valoriser, d'impulser là où il pourrait y avoir des manques.
Au même titre que toutes les autres structures de restauration collective, il y a l'hôpital, il y a les MARPA, il y a les EHPAD, il y a toutes les cantines scolaires. Enfin, la restauration collective, c'est vaste et c'est la raison d'être de ce projet alimentaire territorial, c'est de pouvoir... discuter ensemble de tout ce qui touche à l'alimentation et qui est très transversal. Donc, on va, bien sûr, ça va être un de nos soucis de penser aussi à l'alimentation des personnes qui sont fragiles, malades ou isolées, personnes âgées. Ça fera partie du projet alimentaire territorial.
Merci.
Merci.
À la prochaine.
Ouais, à bientôt.
Et l'ambiance dans la salle de restauration ?
Eh bien, c'est bruyant.
C'était « Il est une vallée ». Alimentation et santé dans les lieux publics de restauration collective. Une réalisation pour RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Un grand merci pour votre écoute et à celles et ceux qui nous ont prêté leur voix. Marc, Régine, Valérie, Anne et les enfants de l'école de Chabestan. À bientôt.